I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, c'est une étape de montagne du Tour de France qui est ouverte aux amateurs.
Ok.
Et bon, c'est un gros morceau quand même. Hein. C'était 170 km avec un peu plus de 3000 mètres de dénivelé.
Waouh.
Et puis j'avais jamais fait de vélo en fait. Hein. J'ai acheté mon vélo un mois et demi avant.
Ah ouais.
Ouais.
Ah oui, ok. Direct.
Et je suis partie. Et,
c'est pas dans la demi-mesure, quoi.
Non. Et j'ai passé 9h23 sur le vélo.
9h23.
J'ai même dû sauter des ravitaillements à la fin parce qu'il y avait la voiture balai qui était à mes trousses. Et je voulais vraiment finir cette course.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Paf, tout ce que tu diras à partir de maintenant sera intégralement retenu contre toi. Je plaisante.
Non, c'est ok.
Bon, alors, on est donc avec Marie Patouillet. Salut Marie.
Salut.
Comment ça va ?
Écoute, plutôt bien.
Marie, pour expliquer très rapidement ton parcours, et puis après on va revenir ensemble dessus. T'es donc tu es une cycliste d'handisport, c'est ça, si je me trompe pas,
c'est ça.
Dans laquelle tu excelles, hein, puisque tu es vice-championne du monde, si je me trompe pas.
Double
vice-championne du monde. Excuse-moi, pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Aucune susceptibilité là-dessus, mais.
Et t'es également dans la vie en dehors de te balader sur ton vélo, en tout cas te faire, j'imagine, ce qui est quand même beaucoup de kilomètres en vélo. T'es également médecin dans la vie.
Je suis également médecin généraliste.
Ouais. Ok. C'est super qu'on se retrouve parce que, et j'espère que je vais avoir plein de sportifs. T'as été l'une des premières sportives que j'ai dans le podcast parce que c'est pas forcément des circuits, tu sais, que j'ai habituellement, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. On va reparler de tout ton parcours, etc. La première question que je pose à tous mes invités, c'est: Marie, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans?
À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans? Eh bien, j'étais une petite fille, blonde aux yeux bleus, très timide et réservée.
Ok.
J'aimais déjà beaucoup le sport. C'était un peu ma manière de m'échapper et puis de m'exprimer et puis de régler mes comptes aussi, parce qu'à cet âge-là, je souffrais pas mal de moqueries à l'école. Et du coup, j'avais l'habitude de régler mes comptes sur le terrain de foot entre midi et deux.
Pourquoi tu te faisais moquer?
Bah, parce que je suis née avec une malformation au niveau du pied et de la jambe gauche. Et quand on a, enfin, moi, je sais que dans mon école, on avait des cours de natation. Donc, forcément, quand on se verrait à la piscine, on se fait pieds nus. Et c'est vrai que ça m'a valu quelques moqueries. Et à cet âge-là, c'est pas forcément évident à encaisser.
Et donc
on se renferme un peu, quoi.
Ok. Et donc, tu te vengeais sur le terrain de foot?
C'est pas que je me vengeais, c'est que je faisais en sorte d'être la meilleure et au moins, je remettais un peu les pendules à l'heure à ce moment-là, quoi. C'est ok, j'étais différente et avec une malformation qui pouvait paraître dysfonctionnelle, mais à ce moment-là, en tout cas, je pouvais jouer aussi bien, voire mieux que certains garçons avec un ballon entre les pieds, quoi.
J'imagine. Qu'est-ce que ça faisait en toi?
Sur le terrain?
Ouais.
Qu'est-ce que ça faisait? franchement, il y avait surtout un côté libérateur. J'avais l'impression d'évacuer un peu toute la rage que j'avais parce qu'on trouve ça injuste. Et on comprend pas forcément pourquoi il y a autant de méchanceté. Et ça me libérait, quoi. Et puis, je prenais du plaisir, hein, parce qu'il y avait un côté dépassement de soi que je commençais déjà à découvrir et à apprivoiser et à apprécier.
Ouais, mais en fait, ta malformation pouvait te permettre de courir déjà à l'époque ?
À ce moment-là, oui. Okay. Je savais qu'elle se dégraderait et qu'un jour, ce serait plus possible. Et c'est pour ça que pendant toute mon enfance, en fait, j'ai choisi de découvrir tous les sports que j'avais envie de découvrir sans me spécialiser dans un en particulier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à skier, surfer, à jouer au hand, au tennis, à nager, à jouer au rugby, au volley, courir, à faire des footings, du VTT, tout ça. Enfin, voilà, en fait, j'ai été faire tous les sports qui m'intéressaient. Et aujourd'hui, je le regrette pas parce qu'il y en a plus d'un que je pourrais plus faire.
Ouais. Et en fait, t'as grandi quand t'avais 8 ans, tu savais déjà qu'en fait, tu pourrais à un moment donné ne plus réussir à courir, quoi. T'as grandi avec ça, quoi, avec cette idée en tête.
Ça m'avait été dit. Après, je vais pas mentir, à ce moment-là, je l'avais totalement. J'étais dans le déni. Enfin, je voulais pas l'entendre. J'espérais quand même qu'il se trompait et que toute ma vie je pourrais courir.
Ouais, j'imagine.
Une fois que vers 25 ans, une fois que le chirurto me dit que c'est soit le vélo, soit la natation, parce que tout le sport avec course à pied, c'est fini. Bon, je suis obligée de l'accepter, mais
t'avais quel âge ?
Jusque-là, j'espérais que j'avais 25, pas... à peu près.
À 25 ans, ok. Ouais.
Ouais. 25-26, je pense. Et à ce moment-là, j'espérais autre chose. Hein. Enfin, avant que ce jour arrive, j'espérais autre chose.
Et en fait, ça devient d'où cette idée de la compète ? C'était que vraiment histoire de remettre les pendules à l'heure après les moqueries, etc. Ou t'avais des parents qui t'ont aussi un peu éduqué à la compète ?
Non, en fait, petite, j'ai jamais fait de compétition. Et j'ai jamais été très compétitive, en fait, pendant une bonne partie de mon enfance parce que je savais que je pouvais pas vraiment rivaliser quand on a quand je courais, enfin, mes deux jambes couraient différemment, quoi. J'avais des appuis différents. Je savais que je pouvais pas, même si je me surpassais pour essayer d'avoir mon meilleur niveau, en face, c'était pas, entre guillemets, c'était pas juste, quoi, la rivalité. Donc, plutôt que d'aller d'échec en échec à vouloir être dans la compétition, je me contentais juste, entre guillemets, de me dépasser et d'être satisfaite de ma performance sans regarder celle des autres. Donc, j'étais pas vraiment compétitive. En fait, je suis tombée dans la compétition parce que, très tardivement, avec le vélo, une fois que j'avais fini mes études de médecine militaire, je me suis faite réformer, en fait, à cause de cette dégradation de malformation. Et ça a été un peu un coup dur. Et c'est par le sport que je me suis un peu, comme quand j'étais petite, quoi. Hein, ça a été le côté un peu libérateur. Et c'est par le sport que j'ai digéré un peu ce changement de direction un peu involontaire. Et puis, j'ai fait des chronos. J'ai découvert le handisport très tardivement aussi, qu'en 2017. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais courir contre des filles qui avaient le même niveau de handicap que moi, en fait, ça change tout. Je me dis, là, on peut faire de la compétition. Là, on court à armes égales. Et OK, on y va. Et à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les championnats de France, les championnats du monde et puis les Jeux.
OK. Bon, alors, t'es allé très vite parce que je voudrais vraiment qu'on revienne sur ton parcours aussi qui t'amène à devenir médecin. Parce que tu décides... comment ça se passe, en fait ? Qu'est-ce qui t'amène petit à petit à... déjà, t'as fait la santé navale, c'est ça ?
Oui, j'ai fait santé navale. Mais déjà, en fait, je voulais être médecin depuis toute petite.
Okay.
Depuis que je suis née, j'ai un suivi orthopédique qui a duré toute ma croissance. J'ai été suivie principalement par le même chirurgien avec qui je lui faisais extrêmement confiance. J'appréciais même les consultations annuelles. Parce que c'était à ce moment-là que je pouvais poser toutes mes questions. Et c'était peut-être la seule personne qui pouvait vraiment me répondre, donc j'aimais vraiment ce moment. Et puis il m'a quand même très clairement amélioré ma qualité de vie jusqu'à mes 25 ans. Il a vraiment pris soin de toute cette malformation. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire médecine. Donc petite, je disais que je voulais être chirurgien orthopédique. Les plans ont un petit peu changé, mais je suis quand même médecin.
Ok, ok. Et pour... Pardon, oui, vas-y.
Ouais, ouais. Et donc en fait, pourquoi, comment je me suis retrouvée à Santé Laval? En fait,
la Santé Laval, c'est une école militaire, on est d'accord.
Ouais, en fait, ouais. C'est l'école de service santé des armées, alors qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, il n'y a qu'une antenne à Lyon. Avant, il y avait Lyon et Bordeaux, et aujourd'hui, il n'y a plus que Lyon. En fait, quand je collège, lycée, j'étais un peu une, on va dire, une élève moyenne, et pas grand monde ne pariait sur moi et ne misait sur moi, sur la réussite, sur ma réussite en médecine. Mmh. Et j'ai, dans un salon étudiant, j'ai découvert, bah, du coup, cette voie-là qui est la médecine militaire, et pour moi ça me parlait. Il y a le côté militaire, je me disais qu'il y avait pas mal de sport, et puis il y a le côté très cadré de l'armée, et honnêtement j'avais besoin de cadre pour pouvoir réussir en médecine, donc je suis partie là-dedans et j'y suis restée 10 ans jusqu'à la réforme après ma thèse.
T'y es restée 10 ans, t'as fait 10 ans d'études? Ah oui, c'est ça. Oui,
bah ouais.
Oui, j'étais en train de débloquer deux secondes.
J'ai quand même redoublé ma première année de médecine, mais
oui,
coup,
comme tout le monde à peu près.
9 plus 1, 10, voilà.
Ouais, ouais, ok, putain. Parfois, ça m'étonne toujours. Ah oui, quand même, c'est très long. Mais oui, c'est très long. En même temps, ouais. C'est un peu le concept, hein, tu vois. Tu finis quand même par de médecin généraliste. C'est quand même, tu finis par sauver les gens, quoi, tu vois. Donc, faut connaître 2-3 trucs. Ok, donc tu commences ta carrière de médecin à l'époque. C'est ça? Ouais. Mais donc tu me disais que tu découvrais le handisport vachement plus tard, c'est ça? C'est il y a quelques années, c'est il y a 5-6 ans, c'est ça?
Ben je le découvre en fait quand je me fais réformer et quand on me dit que je peux plus courir, et c'est quand je me dis que je peux plus courir que je prends vraiment conscience que mon corps n'est pas si fonctionnel que ça dans sa globalité. Mmh. Et du coup, ben je fais mes recherches sur internet et petit à petit je tombe sur les textes officiels, et puis je comprends vite que avec ma formation, je rentre dans la catégorie C5 du cyclisme. Et puis à ce moment-là, bah c'est parti, hein. je passe mes classifications, enfin.
C'est quoi
en commission de classification.
C'est quoi le C5, pardon?
Bah en fait, on est classé en fonction du niveau de handicap. Dans D'accord. le cyclisme, ça va de C1 à C5. C1 étant la catégorie la plus handicapée en termes de handicap fonctionnel. Et C5, la moins handicapée.
Ok. Et c'est assez ouf parce que de ce fait-là, comment tu passes de à 25 ans, tu te rends compte qu'en fait, comme tu dis, ton corps n'est pas aussi fonctionnel que ce que tu pensais. Ok, donc en fait, je vais me mettre au vélo. Il y a une période, enfin, je sais pas, il y a un moment de deuil pour toi où tu te dis, ah bah, en fait, merde, j'étais un peu dans le déni jusque-là, ou comment ça se passe?
Ouais, il y a eu un moment de deuil. Ça, c'est indéniable. Mais en même temps, j'ai cette volonté, cette faculté à pas, je supporte pas trop rester dans l'inactivité, mmh. dans des choses un peu moroses et où on broie un peu du noir. C'est pas trop mon tempérament. Et donc, à ce moment-là, j'ai une copine qui m'offre un dossard pour faire l'étape du Tour en 2017. L'étape du Tour, c'est une course d'amateur, hein, en cyclisme, qui est en fait, c'est une étape de montagne du Tour de France qui est ouverte aux amateurs.
Ok.
Et bon, c'est un gros morceau quand même, hein. C'était 170 km avec un peu plus de 3000 mètres de dénivelé.
Waouh.
Et puis j'avais jamais fait de vélo en fait, hein. J'ai acheté mon vélo un mois et demi avant.
Ah ouais.
Ouais.
Ah oui, ok. Direct.
Et je suis partie. Et
c'est pas dans la demi-mesure, quoi.
Non. Et j'ai passé 9h23 sur le vélo.
9h23.
J'ai même dû sauter des ravitaillements à la fin parce qu'il y avait la voiture balai qui était à mes trousses et je voulais vraiment finir cette course. Et en fait, j'ai passé 9h23 et le cadre était magnifique. Il faisait hyper beau. Il y avait des paysages de montagne. C'était autour du col de l'Isoire. Ouais. Briançon, tout ça. Et c'était splendide. Et arrivé là-haut, déjà, je me suis dit, ok, j'ai retrouvé cette envie de me dépasser, cette envie de me mettre des challenges sportifs, et en fait, j'ai retrouvé le plaisir, surtout, de refaire du sport. chose que je pensais avoir perdue en perdant la course à pied, en fait, parce que je courais beaucoup. Enfin, moi, avant d'aller à l'hôpital travailler, j'allais toujours courir, je faisais toujours un footing, j'étais toujours en activité et j'avais vraiment du plaisir à pratiquer la course à pied. Et là, avec le vélo, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est bon, je peux plus courir, mais le plaisir, il est encore là, il n'y a pas de souci, ça va aller.
Donc, tu passes 9h23 sur un vélo et ça te dégoûte pas de... Au contraire, tu te dis, OK, ça, c'est cool, c'est ça que je veux faire dans la vie, quoi. Enfin, en tout cas, je veux...
Bah, ouais, alors après, je vais pas mentir, hein. Pendant ces 9h23, il y a un moment, je posais le pied à terre et je pleurais tellement c'était dur et tellement... Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, sans entraînement, dans ce putain de col? Je suis désolée pour le gros mot.
Tu as le droit de dire putain. On dit putain ici, si tu as envie de dire putain. Tu peux y aller.
Ah, ok, cool, merci. Oui. Mais non, en plus, c'était vraiment ce putain de col, parce qu'à ce moment-là, j'en pleurais. Mais en fait, quand on arrive là-haut et qu'on passe la ligne d'arrivée, on ressent tellement de fierté et tellement de bonheur qu'on en oublie ces moments-là. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui se passe dans le sport de haut niveau. On va pas se mentir, il y a des séances, oui, j'en pleure, en fait. Parfois, j'ai tellement mal, mais derrière, le bonheur qu'on a à monter sur une marche de podium ou même à faire un record perso, on en oublie ces moments un peu difficiles. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé 9h23 et oui, pendant ces 9h23, c'était pas que du bonheur. Mais à la fin, ce que j'en tire, c'est juste... pour moi, ça a été presque salvateur, en fait. Je me suis dit dans ma tête, OK, t'inquiète pas, tu peux plus courir. Tu pourras plus courir, mais tu pourras faire plein de trucs. Et je savais pas ce que j'allais faire encore, mais je savais qu'il y avait des trucs qui m'attendaient.
OK. Et donc, tu tombes en amour pour le vélo à ce moment-là, c'est ça?
Bah, en amour pour le vélo, en soi, j'ai pas une grande culture vélo parce que je découvre le vélo qu'en 2017. En fait, je tombe en amour pour l'effort en lui-même. Le vélo, c'est un choix qui m'a un peu été forcé. Enfin, j'avais le choix entre la natation ou le vélo. Enfin, OK, j'ai fait un choix entre deux choses. Mais si j'avais vraiment eu à choisir, je serais restée dans un sport avec de la course à pied, à pouvoir... voilà, je voulais faire un marathon, je voulais faire le Mont Blanc. Enfin, j'avais encore plein de rêves à faire avec mes jambes, quoi.
Ouais.
Pas sur mes deux pieds.
Oui.
Et là, le vélo, en fait, c'est un peu un choix qui m'était imposé et on va dire que je l'ai accepté. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, en fait, c'est les sensations que j'ai, c'est le projet de performance que je fais à travers le vélo. Et c'est d'avoir retrouvé ce dépassement de soi sur le vélo, bah, c'est ça qui me plaît vraiment. Parce que en vrai, oui, le vélo m'a été un peu partiellement imposé, quoi.
Ouais, je comprends.
Si je voulais continuer à faire du sport. Après, j'aurais pu m'arrêter.
Ça n'a pas l'air d'être le cas du bestiau. T'as l'air d'avoir besoin de te dépenser.
Non, et puis c'est surtout que dans ma tête, même quand j'aurai fini le sport de haut niveau, je compte continuer à trouver des challenges à vélo. Quoi. Pour moi, le vélo ne s'arrêtera pas que dans le sport, avec le sport de haut niveau. Il m'accompagnera tant que. Puis s'il faut passer au vélo électrique, je passe au vélo électrique quand je serai vieille. Hein, y a pas de
soucis. T'as l'air d'avoir déjà un plan en tête pour ta carrière.
Après, non,
ta
même
carrière
pas. Je pense qu'il va y avoir quand même. Je vais partir plus sur du vélo de rando avec des longues traversées. Ouais. C'est un truc qui me tente pas mal. Mais non, j'ai encore rien de. Pour le moment, j'ai Paris 2024 en tête. Et après, ce qui se passera, je suis incapable de le dire. Je sais que je trouverai ma voie et ça. Je suis sereine avec ça, mais incapable de dire ce qui se passera après Paris 2024.
Ok.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et en fait, qu'est-ce qui te fait? Parce que là, pour le coup, tu racontes que dans l'étape du Tour, t'étais en train de passer un col et tout. Et là, aujourd'hui, toutes tes médailles et tes titres, t'es allé les chercher sur de la piste. Alors, pour les gens qui connaissent pas trop le cyclisme, c'est un exercice qui n'a strictement rien à voir puisque vous êtes en train de vous tourner en rond sur une piste pendant des plombes.
Alors, il y a quand même une médaille paralympique qui est sur route.
Ouais.
Une des deux bronzes, mais effectivement, la plupart de mes médailles sont sur piste. Bah, en fait, quand je finis cette étape du tour, je me dis, bon, ok, c'est bien, je l'ai fini, mais bon, j'ai quand même mis un sacré temps pour la finir. Ce serait bien que je progresse. Donc, j'ai intégré un premier club. Dans ce club-là, cette année-là, on me dit que l'hiver, si je veux progresser sur la route, ben, il faut que je fasse de la piste. Et c'est vrai que c'est une bonne école. Et donc, j'ai fait de la piste. Et en fait, je suis tombée totalement amoureuse du 500 mètres. Même si j'ai pas du tout le gabarit et le profil pour en faire, c'est l'épreuve où je prends le plus de plaisir et c'est comme ça que je suis restée sur la piste. Et puis ensuite,
donc le 500 mètres en gros, j'explique, mais le 500 mètres en gros, c'est une course qui est arrêtée, c'est ça?
Ouais, 500 mètres départ arrêté. En fait, on est vélo bloqué dans la machine. Il y a le décompte 5, 4, 3, 2, 1. À zéro, la machine s'ouvre. Et là, bah, il faut que.
C'est un sprint.
On aille le plus vite possible sur 500 mètres. Exactement.
C'est l'équivalent d'un 100 mètres à pied, quoi.
Je dirais plus un 200.
Ah, ok.
Je dirais plus un 200 mètres en termes de temps d'efforts. Oui. Et on est sur 35, 36 secondes. Donc, même un peu plus d'un 200 mètres, quoi. Mais voilà, donc je tombe vraiment amoureuse de cette discipline. Et puis après, bah, de toute façon, on va pas se mentir, il y a une rencontre qui a tout changé pour aller à la recherche de ces médailles. C'est celle de mon entraîneur actuel, qui est Grégory Boger.
Et alors, comment tu le rencontres?
Je le rencontre en arrivant à ma deuxième année de pratique de vélo. Je rejoins l'US Créteil, donc l'Union sportive cyclisme de Créteil. Et en fait, l'hiver, le club organise une fois par semaine une séance à l'INSEP sur une petite piste qui est au centre de la piste d'athlée couverte. Et là, Greg était là pour encadrer un peu les créneaux. Et au début, bah, il me conseille comme il conseille tout le monde. Et puis je vais faire une première compétition sur ma propre, enfin c'était mon choix. Je pars à Londres faire une compétition en e-sport et puis là-bas, même si ma course techniquement était assez catastrophique, je fais quand même un chrono qui me permet de me sélectionner pour les championnats du monde. Et de là, bah il me donne un peu plus de conseils, il me guide un peu plus. Et puis à ces championnats du monde là, donc c'était en 2019 à Apeldoorn, je fais médaille de bronze aux 500 mètres. Et à partir de cette médaille de bronze-là, bah, je me souviens encore, je rentre et il me dit, bah, c'est quoi l'objectif? C'est Tokyo? Je dis, bah, franchement, je pensais pas que Tokyo, enfin, que les Jeux paralympiques se présenteraient à moi aussi rapidement. Dans ma tête, je m'étais dit, si j'en fais, ce sera plutôt Paris. Mais là, avec ce que je venais de faire au championnat du monde à Apeldoorn, effectivement, ça paraissait dommage de se priver de Tokyo. Et on est parti comme ça à l'aventure pour Tokyo, quoi.
Comment tu te rends compte que tu as un niveau mondial? Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que deux ans auparavant, tu montais pas sur un vélo, quoi. Tu vois, c'est complètement fou.
En fait, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Je pense que je l'ai vraiment réalisé quand j'ai fait mes deux titres de vice-championne du monde l'année d'après à Toronto, enfin à Hamilton exactement, au Canada, où je fais vice-championne du monde du 500 et vice-championne du monde de l'Omium. L'Omium, c'est une épreuve qui regroupe le 500 mètres, un 200 mètres lancé, la poursuite de 3 km et un scratch de 10 km, c'est une course en peloton.
Okay.
Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où je commence à me rendre compte que je peux avoir un niveau, un très bon niveau mondial. Mais ça prend du temps de le réaliser, surtout quand tout va aussi vite.
Est-ce que tu as des aptitudes particulières qui font que tu pédales plus vite que les autres? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, physiquement, j'ai des données qui sont bonnes.
Ouais.
Mais je pense que ce qui explique en tout cas mes progrès assez assez rapides, c'est que bah quand on donne une consigne, quand Greg me dit un truc sur le bord de la piste, en fait c'est intégré dans la minute qui suit. Ah. Et en fait j'intègre très rapidement les informations. Je vais pas mentir, mais mes connaissances de médecin m'aident aussi beaucoup. Mes connaissances anatomiques, ça change tout quand on comprend un mouvement, quand on sait quel muscle on utilise. Bah, le cerveau visualise beaucoup mieux et ça rend beaucoup plus efficace l'entraînement. Donc il y a ça. Et puis après, j'ai une détermination qui est assez forte, quoi. Je sais même pas souvenir d'avoir triché à un seul entraînement, d'avoir loupé un entraînement par flemme. Enfin, franchement, quand je vais à l'entraînement et j'y vais à chaque fois, c'est pour y être à 300% et j'ai jamais triché un entraînement.
Comment tu peux tricher un entraînement quand tu dis tricher?
Non, mais c'est pas tricher, c'est-à-dire que il y a parfois on peut avoir pas trop envie d'y aller et puis on sait avec soi-même que on a fait la séance un peu en dessous, quoi. On n'a pas été chercher la limite qu'il fallait aller chercher, donc et ça c'est vrai que ça m'arrive pas. Mais c'est un peu notre terrain d'entente avec Greg, c'est-à-dire que si je viens à l'entraînement, c'est pour faire le job à fond, quoi. C'est pas pour entre guillemets faire semblant de le faire.
Ouais, je comprends. Ok, donc tout ça fait qu'à un moment donné, tu te retrouves à cartonner.
Ouais, puis quand je dis pas tricher, c'est je triche pas non plus sur mon hygiène de vie, c'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent chez moi et regardent mes placards, il y a pas un seul truc pour faire un écart au niveau alimentaire. Il y en a si jamais je fais un apéro, mais elles sont pas pour moi, quoi. C'est vraiment par politesse pour pas déprimer les invités, mais franchement, il y a pas une goutte d'alcool, il y a pas un soda, il y a rien, enfin. Et pareil sur le sommeil, je suis hyper réglo, enfin. Non, franchement, je mets tout en œuvre pour que ça se passe bien.
Tu sais, c'est assez fou parce que souvent les sportifs de haut niveau, la plupart du temps, ils sont repérés dès le plus jeune âge. Ils suivent, tu sais, l'INSEP ou je ne sais pas quoi. Et en fait, arrivés à 30 ans, en fait, ils sont au top de leur carrière. S'ils ont une vie d'athlète derrière eux qui est ultra régulée, etc. Et j'ai l'impression que pour toi, ta vie, elle a basculé en l'espace de 2 ans. Je me trompe ou pas?
Ouais, c'est totalement ça. Et d'ailleurs, ça a été assez vertigineux parce que j'étais médecin remplaçante à 3-4 jours par semaine, et d'un coup, c'est arrivé le haut niveau. Il a fallu que je me pose la question de est-ce que je continue de travailler, est-ce que ça a été assez assez vertigineux, je pense, c'est mon adjectif. Mais franchement, et c'est là où j'en reviens à cette rencontre avec Greg.
Ouais, donc en fait, Grégory Bauger, pour expliquer un petit peu, mais Grégory Bauger, c'est un grand nom du cyclisme sur piste français, quoi. C'est dans les années, c'est ça.
Oui, il a une dizaine de médailles de champion du monde et deux titres de vice-champion olympique.
Ouais.
Quand tu à Londres, donc non, et en fait, c'est cette rencontre qui a vraiment tout changé parce que lui, franchement, morphologiquement parlant, et puis mes premiers tours sur le vélo, entre mon premier 500 mètres et mon 500 mètres d'aujourd'hui, il y a quasiment 10 secondes d'écart. Donc effectivement, sur un sprint, c'est énorme. Et quand je fais mon premier 500, personne n'aurait pu dire « Moi, celle-là, je vais la sélectionner dans mon club et je vais l'emmener sur les podiums des Jeux Paras. » C'est sûr. Jamais, jamais. J'ai encore la vidéo de ce départ, mais même moi, quand je le regarde, je me dis « Mais comme... » Enfin, il y a un monde entre les deux. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas possible. Et en fait, j'ai eu cette chance de tomber sur Greg qui, lui, en fait, on m'a juste posé la question de dire, mais tu veux faire quoi? Si c'est le 500 qui te plaît, ok, c'est le 500. On s'en fiche que t'aies pas des grosses cuisses. On s'en fiche que t'aies pas le profil pour faire ça. Si c'est ça qui te fait plaisir, si t'as envie d'y aller sérieusement, si t'es prête à pas tricher, à être exigeante et à être rigoureuse dans ce projet, on y va. Et en fait, c'est grâce à lui, parce que il m'a pas collé l'étiquette, il m'a pas rangé dans une case, que j'en suis là, en fait. Parce que je rentrais dans aucune case au début. Enfin, ou alors je rentrais dans la case de sport loisir, et puis très bien. Et on en reste là.
Ouais, oui, c'est ouf. Et toi, tu t'es prise au jeu, quoi. Vraiment comme je te disais, s'il y a un truc un peu qui me fascine ok, en fait, en 2 ans, ta vie, elle a basculé et tu t'es transformé en sportif de haut niveau, là où, effectivement, dans j'imagine, les autres sportifs, ils sont limite programmés pour ça depuis le plus jeune âge, quoi.
Ouais.
Toi, t'as...
Après, cette bascule, elle est arrivée à un moment, on va dire, où il y a une certaine maturité aussi. Enfin, j'avais fini mes études, j'étais rentrée dans ma vie d'adulte. Du coup, je pense que la bascule, elle est plus facilement gérable en termes d'émotions, en termes, on contrôle un peu plus de choses. Enfin, on n'est pas, quand on commence jeune, il y a toute l'adolescence à gérer. C'est peut-être, c'est peut-être différent. Et c'est peut-être ce qui rend le passage et la bascule un peu plus efficace à cet âge-là.
Ah ouais, mais tu vois, je me disais d'un autre côté, t'avais terminé tes études de médecin. Tu pouvais te dire, bon, bah, ça y est, en fait, je vais avoir ma petite carrière tranquille de médecin généraliste et tout. Et non, tu t'es dit, non, je vais me transformer en championne de vélo, quoi.
Bah, en fait, je reviens à cette rencontre, mais quand vous avez quelqu'un avec un palmarès aussi important, qui a un bagage d'expérience aussi riche, et qui en plus vous dit, bah, moi, je suis OK pour te le transmettre, bah, ça aurait été du gâchis de ne pas y aller, quoi.
Ouais, j'imagine.
Pour moi, c'était, alors j'ai mis du temps à me sentir légitime de pouvoir recevoir toute son expérience. Ça m'a pris quelques mois. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qui lui prend de s'intéresser à, enfin, de vouloir m'accompagner comme ça. Et puis, maintenant, c'est OK.
Oui.
Mais non, je pouvais pas passer à côté de ça. Et puis, de toute façon, j'ai besoin de challenge. Donc, moi, il y avait un côté un peu angoissant de me dire que, bah, ça y est, j'avais réalisé mon rêve d'être médecin. Et bah, maintenant, c'était tout tracé. Non, j'étais pas encore prête à ça, quoi. Mmh. il me fallait d'autres aventures. Il me fallait, et en fait, celle-là, elle est tombée à pic. C'était, je pense que c'était un rêve, enfoui que j'ai enfoui dès ma plus jeune enfance. Du sport de haut niveau, je pense que c'était quelque chose qui me faisait rêver, mais par ma malformation et parce que je connaissais pas le milieu paralympique, bah je me disais que dans tous les cas j'y avais pas accès et que ça servait à rien de perdre du temps à rêver à devenir sportif de haut niveau. Et il s'est vraiment révélé quand j'ai découvert l'univers paralympique et que en fait si ce rêve il était réalisable et que bah peu importe le moment où il se présentait à moi, si je pouvais et si j'étais OK pour tout mettre en œuvre, pour y arriver, bah, feu, quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
Ah ouais, et c'est aussi pour ça, j'imagine, que les JO paralympiques sont importants. C'est que ça donne aussi, j'imagine, une fenêtre à laquelle tu n'avais pas accès quand tu étais plus jeune, c'est ça? Il y a impossible,
ouais,
quoi.
Oui, c'est ça. Oui. Non, c'était... Ouais, pour moi, je connaissais pas, donc c'est compliqué de se projeter dans un milieu, dans un univers qu'on ne connaît pas.
C'est sûr. On va reparler un peu parce que effectivement, t'étais à Tokyo pour les Jeux paralympiques. Mais comment tu fais aujourd'hui pour réussir à associer ta vie professionnelle de médecin, parce que tu continues à exercer, j'imagine.
Je continue à exercer un jour par semaine.
Ok. Pourquoi tu ris ?
Je m'étais arrêtée parce que ça me paraît ridicule quand je dis ça, mais en même temps, physiquement, je peux vraiment pas donner plus.
Ouais.
Et il y a même des semaines où je me dis que c'est parfois même trop, parce que du coup, c'est quand même des temps de récup que j'ai pas. Et ça m'étonnerait pas que l'année des Jeux, je m'arrête encore de travailler.
Okay.
Mais par exemple, au mois de mars 2021, je me suis totalement arrêtée jusqu'au jeu pour finir ma préparation en me consacrant uniquement au vélo, quoi.
Oui, parce que le vélo te prend tout ton temps, j'imagine, de te préparer comme ça.
C'est un sport qui demande pas mal d'entraînement et puis qui demande aussi beaucoup de récupération. Enfin, en fait, voilà, dans le sport de haut niveau, la récupération est aussi importante que l'entraînement, et c'est pas parce qu'on arrive à caler toutes ces séances d'entraînement parmi des zones de travail que on est performant derrière. Si on n'a pas le temps pour récupérer, ça sert à rien, quoi. Le corps, il a pas le temps de digérer, et y a rien qui se passe sur le vélo, donc il fallait que j'accepte de prendre du temps pour pouvoir faire ma sieste entre mes deux séances d'entraînement de la journée, de pouvoir dormir, de pouvoir que mon jour off, ce soit vraiment un jour off et pas un jour où je suis derrière un bureau et où mon cerveau tourne à 10 000 pendant toute la journée. Mmh. Donc voilà.
Et donc, comment tu te retrouves au jeu de Tokyo? Il y a des sélections, pardon.
Oui, en fait, l'avantage de faire des épreuves chronométrées, c'est qu'on fait des, enfin, il y a des minima qui sont prédéfinis, et puis, bah, de toute façon, en faisant mes deux titres de vice-championne du monde, alors pas en 2021 parce que nous ils ont été annulés, mais l'année, enfin, du coup, les derniers championnats du monde avant les Jeux, bah, je fais deux titres de vice-championne du monde, du coup, c'était la sélection était assez évidente.
Ok. Ouais, génial. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête 4 ans après être monté pour la première fois sur le vélo, de te retrouver sur les Jeux Paralympiques? C'est quand même fou.
Bah ouais, c'est fou, mais en même temps, je me dis que c'est pas fini.
Okay.
C'était incroyable. Mais en fait, dans ma tête, et depuis le début, je sais pas pourquoi, mais ce sera à Paris où je serai vraiment prête. Ces jeux-là, on a tout fait pour arriver, pour que j'arrive préparée et avec le meilleur niveau que je puisse avoir avec le peu de préparation que j'ai, parce que 4 ans, c'est pas énorme quand on apprend le vélo. Enfin, on apprend le vélo de piste, enfin, sur piste et sur route, 4 ans auparavant, arriver aux jeux performantes, c'est... ça relève, enfin c'est un challenge assez assez relevé. Et en fait, pour moi, c'est qu'une étape pour Paris, quoi. Ce sera à Paris que je m'exprimerai pleinement sur le vélo.
Ok. Donc t'as gagné une médaille de bronze, c'est ça, à Tokyo?
Deux médailles de bronze.
Deux, mais pardon.
Deux et dont ouais. Et dont et puis une très belle quatrième place sur le 500 mètres.
Ok. Ouais. Donc et là, ton objectif, c'est que tu dis ok pour pour Paris, je serais prête à aller chercher la médaille d'or, quoi. C'est ton ambition, en tout cas, c'est ton objectif.
Pour Paris, mon objectif, c'est d'aller chercher mes plus beaux chronos. Et si je vais chercher ces chronos-là, ouais, ce sera une jolie médaille dorée que j'espère décrocher. Mais j'ai du mal à parler de médaille, parce que pour moi, la médaille, c'est ce qui arrive après la course, une fois que moi j'ai fait ma course, une fois que toutes les filles ont fait leur course. Et du coup, ça veut dire qu'on est déjà après, en fait. Alors que ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le moment, c'est ce qui va se passer pendant ma course. Et à ce moment-là, pendant ma course, ce qui va compter, ça va être mon chrono. Donc là, pour le moment, je pars vraiment avec l'objectif de faire le meilleur chrono qui soit. Et si les filles sont meilleures que moi, elles sont meilleures que moi, je pourrais que les féliciter. Mais par contre, il faudra qu'elles viennent me battre, ça, il n'y a pas de souci. Il faudra qu'elles s'accrochent.
Mais oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'était pas... c'est vraiment une course contre toi, quoi, finalement, le cyclisme.
Non, et puis c'est surtout que de pas voir que par la médaille, ça permet aussi d'analyser aussi ce qu'il y a autour, les émotions qu'on peut ressentir. Enfin, moi, sans mentir, le meilleur souvenir que j'ai des jeux, c'est ma quatrième place sur le 500 mètres. Parce que le chrono que je réalise, c'est le meilleur chrono que j'ai jamais fait et qu'il est incroyable. Alors oui, il y a trois filles devant moi qui sont meilleures et bravo à elles. Elles font une perf exceptionnelle, mais je suis tellement fière de ce chrono-là et j'ai pris tellement de plaisir sur cette course-là que ça reste mon meilleur souvenir.
Ouais. Alors qu'on dit souvent que la quatrième place, c'est la plus terrible parce qu'elle n'est pas dans le palmarès, quoi. Enfin, en tout cas, t'es pas sur le
podium. Ouais, mais ça, c'est parce que quand vous rentrez, après, on vous parle que des médailles et on oublie de vous parler des gens des sportifs qui ont participé et qui ont quand même fait de belles choses, en fait. Je ne sais pas si c'est lié aux médias français, mais...
Bah, je ne sais pas, je crois que c'est tous les médias, non?
Je ne sais pas trop.
Mais tu as raison.
Mais c'est dommage de ne pas, de pas explorer cette aventure olympique et paralympique sous un autre angle que par celui des médailles, quoi.
Ouais. Et plutôt de la performance individuelle par rapport au temps, par rapport à ta carrière en tant que telle, quoi. Je comprends. C'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ok. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Il y a ton attaché de presse qui m'a dit que t'étais très impliqué autour de la lutte contre la sédentarité des enfants.
C'est vrai que je vais pas mal dans les... Bah, à chaque fois qu'il y a les semaines olympiques, paralympiques, et puis en même temps, en dehors, je vais pas mal dans les écoles. Pour discuter un peu avec les enfants, pour discuter sur le handicap et sur le sport. Et effectivement, on apprend, je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre qu'il faut bouger, que l'activité physique, c'est bon pour la santé, le moral. Ça a plein d'effets positifs et c'est surtout que j'ai envie de parler du handicap à ce moment-là aussi parce que c'est de faire passer le message que même si on a une particularité physique, qu'on est un peu limité dans nos mouvements, mais en fait, il y a toujours une possibilité d'adapter et de trouver un sport qui nous correspond. Et très rares sont les situations où aucun sport n'est possible.
Ok. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les gamins à respecter les autres par rapport à ton histoire à toi où tu t'es fait moquer.
Non.
Non.
Déjà, c'est faire comprendre que n'importe qui, peu importe son handicap, peut prendre du plaisir en faisant du sport. Mmh. Je pense que ça, c'est le premier point et que c'est vraiment essentiel. Après, ça, moi, c'est mon histoire personnelle et c'est par le sport que je m'exprimais et que je libérais un peu une certaine rage ou frustration. Mais il y a plein d'autres moyens. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être... Il y a plein de choses. Enfin, on peut évacuer les moqueries par plein d'autres moyens. Ça peut être la lecture, l'écriture, enfin n'importe quoi. Enfin, tout ce qui nous fait du bien, en fait. Mais non, c'est surtout faire comprendre qu'on peut prendre du plaisir par le sport et qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il faut juste parfois se poser, rencontrer les bonnes personnes et réfléchir. Et puis, à la fin, il y a toujours une option, une solution qui est trouvée.
Ouais. Je sais pas trop si t'as envie de. Est-ce que t'as envie de parler de féminisme ou pas? Parce qu'on est le 8 mars.
Ouais, ce serait pas mal.
Ouais, ce serait pas mal.
J'ai cru. C'est pas mal, parce qu'il y a encore quelques progrès à faire encore.
Non, je vois pas de quoi tu parles, pas du tout. De quoi tu parles? La société est parfaitement égalitaire, voyons. Qu'est-ce que tu racontes?
Ouais.
Non, je déconne, ouais. Je plaisante. On se connaît pas assez pour que tu saches que c'est une vanne, pardon. Mais oui, c'est clairement une vanne. Non, ouais. Qu'est-ce que... Parce que je t'ai vu faire quelques sorties sur le sexisme, etc., dans le vélo aussi.
Oui.
c'est un sujet qui te tient à cœur, donc
il y a eu quelques points d'ombre pendant mes jeux, en fait. Oui, c'est sûr que quand on me sort, quand à mi-jeu, je demande à ce qu'il y ait un peu plus de respect envers la femme et la gente féminine et qu'on me répond que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Moi, ça me pose problème en 2021.
Waouh.
Ça me pose problème.
C'est quoi un sport de fille alors?
Je sais pas, sur Google, ça. Je sais pas, mais.
J'ai tapé sport de fille sur Google. À ton avis, qu'est-ce qu'on trouve? Sport de fille.
Mais pour moi, il y a certaines situations où.
Mais écoute, il n'y a pas de sport de fille apparemment. Ah si, du cheval apparemment. Voilà.
C'est ah oui fille. Ah, parfait. Voilà.
Alors que bon, il y a plein de mecs qui font de l'équitation aussi. Mais bref.
Mais non, mais du coup, je.
T'as perdu le fil.
Perdu le fil.
Pardon.
Mais.
Ouais, on t'a dit que.
Pour moi, sur une compétition comme ça dans les jeux, quand on est avec des personnes qui sont sexistes et qui ont du mal un peu à respecter la femme en tant que telle, c'est une pression supplémentaire. Enfin, c'est lourd, quoi. Les blagues en permanence, et à un moment donné, on sature.
Mais c'est quoi comme genre de blague par rapport à...
Bah, là, j'en ai plus trop en tête, mais je prends un exemple. Des athlètes sont déçus de leur course, ils descendent de la piste en pleurant. On va me dire, ah, les pauvres, c'est la première fois qu'on les voit pleurer. Moi, à mi-jeu, il y a un moment donné où je vais craquer parce que j'en peux plus de ce sexisme, j'en peux plus de certaines choses. Et en plus, j'étais assez isolée en tant que femme parce qu'il n'y avait pas aucun personnel féminin dans le staff.
Ah oui.
Et à ce moment-là, plutôt que je m'exprime en pleurant. Et là, on me sort quand même qu'on ne pensait pas que j'étais aussi faible.
Ah oui. C'est compliqué de montrer des émotions dans... Enfin, en tout cas, quand tu es une femme, c'est compliqué de montrer des émotions dans le sport parce qu'on te catégorise tout de suite comme faible, quoi.
Ouais, ça montre bien la différence de traitement entre les deux, quoi. Un sportif qui pleure, bah, le pauvre, quand même, il pleure, quoi. Une nana qui pleure, enfin, une sportive qui pleure... passe pour la chieuse, quoi. Donc,
Ouais, et comme tu disais, il y a pas beaucoup de staff, enfin le staff est pas très mixte, quoi.
Ah, pas du tout, non.
OK. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer?
Non, je crois qu'on a parlé à peu près tout abordé, hein.
Tu m'as raconté qu'après Paris 2024, tu ferais plutôt de la rando, c'est ça? L'autre rando?
Bah, je ne sais même pas. Ça, je sais pas du tout ce que je ferais après Paris 2024. Okay. Je reste ouverte à toute envie et à tout projet qui pourrait se présenter ou se construire.
Ouais, trop bien. Bah, Marie, merci beaucoup. C'était vraiment très cool.
Bah, avec plaisir. Oui, c'était très agréable.
Je mettrai sur Insta, parce que c'est quoi l'endroit où on peut te retrouver, te suivre le plus, où tu viens Insta. Mettre des trucs et tout? Insta, c'est ton Insta? Ok.
Ouais.
Eh bien, écoute, je mettrai le lien sur Insta et puis, écoute, j'espère qu'on se retrouvera après Paris 2024 pour une interview où tu me raconteras un peu ton succès et ta médaille d'or. Et, ou alors, en tout cas, ton meilleur temps de tous les temps. Parce que ça aussi, ça peut être cool. J'ai bien compris le message.
Ouais, c'est ça.
Trop intéressant.
Non, mais c'est c'est pareil de parler médaille, c'est une pression supplémentaire. Mmh. Alors qu'en soi, une médaille, bah, ça dépend aussi des autres et on contrôle pas les autres. Donc, à quoi bon perdre de l'énergie à essayer de contrôler ce que vont faire les autres, alors qu'on peut déjà juste contrôler ce qu'on peut faire soi-même. Et au moins. Je pense qu'on sera plus performant, enfin qu'on est plus performant en se concentrant que sur sa performance à soi. Et puis après la course, on regarde ce que font les autres. Mais au moins, on aura fait déjà notre course, quoi.
Ouais, c'est hyper
sans pression. Enfin, sans pression supplémentaire qui, pour moi, n'est pas très utile.
Ouais, ouais, je comprends. Autant s'en décharger le plus possible avant un grand événement comme ça et 4 ans de préparation, quoi.
Ouais.
De garder que le meilleur. Merci beaucoup, Marie. C'était super.
Mais avec plaisir, ouais.
Je te souhaite une belle fin de journée, à plus.
Oui, à toi aussi, salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.